Au vendredi, à partir de 11h sur Canal de la presse, c'est tous les jours. Du lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux? Qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Tout ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bonheur.
Les gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc, du coup, je pense véritablement qu'il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Des surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir pour cette émission Club de la Presse et merci surtout pour votre fidélité sans cesse renouvelée à la 93.5. Nous sommes aujourd'hui au vendredi 13 septembre 2024. Il sont 11h sur votre radio et vous comprenez sans doute que c'est l'émission Club de la Presse et qui demain nous sommes au 5e numéro pour le compte à l'heure de cette semaine. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Itek aussi d'ATV assure la mise en onde. Gérard Akoutia est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Merci du fond du cœur à vous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Aného, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Koktouazi à Dapaon. Merci également à vous tous qui nous suivez partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, à savoir notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook et également nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec mon confrère journaliste en studio avec moi, Thierry Afanoukoué. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous.
J'espère que tu vas bien et tu as bien passé la semaine.
Ah, on rend grâce à Dieu. Tant qu'on a la vie, il y a espoir. Donc, on croit toujours qu'on trouvera le bonheur si tant est que ça existe sur Terre. On le trouvera.
Quoi, vous ne croyez pas, vous ne vous croyez pas
avant de partir un jour.
Vous ne croyez pas au bonheur?
Oui, mon bonheur se trouve en Christ. Donc, voilà.
Ah, c'est un pasteur qui parle. J'ignorais. Firmé Teko Agbo, lui, c'est un évangéliste, je pense.
Alléluia.
Bonjour.
Bonjour Pascal Lousseau, merci de m'avoir invité. Je ne suis pas évangéliste. Encore moins pasteur, moi je suis juste, je ne m'appelle même pas chrétien, mais je suis juste un croyant, c'est-à-dire celui qui a reçu Jésus-Christ.
Et un serviteur de Dieu.
Serviteur de Dieu, qui croit au Seigneur Jésus et qui essaie, avec la grâce de Dieu, de mettre en pratique tout ce que Dieu a dit, parce que c'est fondamental. C'est fondamental. L'essentiel n'est pas d'aller à l'église, mais c'est de croire et de mettre en pratique. Parce que Jésus a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est deux choses fondamentales. Vous devez croire à la bonne nouvelle et vous devez vous repentir. Et quand on parle de la parole de Dieu, on parle de préceptes, on parle de traditions, on parle d'ordonnances, on parle de coutumes, on parle de commandements, on parle de lois. Donc c'est lourd. Donc j'essaie un peu de mettre en pratique tout cela. Essentiel est d'avoir un bon cœur et de savoir qu'un jour, Christ notre Seigneur, celui en qui je crois, reviendra me chercher et que moi je ne serai pas soumis au jugement, mais je serai juste à sa droite parce que je l'ai reçu et j'ai mis en pratique sa parole.
D'accord. Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Le bien, c'est que c'est tout le monde hein, avec des obédiences religieuses diversifiées et variées qui suivent l'émission Club de la Presse. Et donc, ça, c'est que tout le monde est habilité quand même à croire. Ça, c'est vrai. Nous sommes tous des croyants.
Bien évidemment. En fait, il faut reconnaître ceci. Il faut essayer de clarifier ceci. Au ciel, il n'y a pas de chrétien. Au ciel, il n'y a pas de musulmans. Au ciel, il n'y a pas de bouddhistes. Au ciel, il n'y a pas d'animistes. Il y a juste ceux qui ont cru à la parole de Dieu, ceux qui ont reçu Jésus et qui ont essayé de mettre ça en pratique. Le reste, c'est la grâce qui suit. Sinon, vous n'allez pas voir qu'au ciel, il y a assemblée de Dieu ou il y a mosquée. Il n'y a pas ça. Il y a juste ceux qui ont reçu Jésus et ceux qui ont cru, à, ou pour conclure, ceux qui ont cru à la parole de Dieu.
D'accord. Merci, mon pasteur. Alors, Thierry, nous débattons. Enfin, nous débattons. Justement. Oui, oui.
Non, mais pas de religion. Voyons, pas de la parole de Dieu. Justement. Je dis, par exemple, la semaine a été un peu mouvementée pour nous.
Tout à fait.
Surtout au niveau de notre centre de recherche, vous savez que nous avons entamé une campagne, ça fait déjà 2 semaines, pour accompagner. L'objectif, c'est d'accompagner la transition constitutionnelle. Parce qu'il y a une constitution qui a été votée, qui est promulguée aujourd'hui, même si cela est un peu contesté. Nous, ça devient la loi de la République, la loi fondamentale de la République. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de permettre à tout ce que. C'est à ce que beaucoup maîtrisent un peu. Presque tous les articles, ou ces articles-là qui entrent dans la mise en place des nouvelles institutions de la Ve République. Et nous avons sorti entre-temps l'article 8 et cette semaine, nous avons sorti l'article 10 qui parle du Sénat, l'article 10 de la nouvelle constitution, la constitution du 6 mai 2024. Le premier alinéa dit que le Sénat est composé pour 2/3 de ses membres de personnalité élus par les représentants des collectivités territoriales et pour 1/3 de ses membres de personnalité désignés par le président du Conseil. La loi 2 dit le mandat des sénateurs est de 6 ans renouvelable. Alors, la loi 3 dit sous renonciation, les anciens présidents de la République et les anciens présidents du Conseil sont sénateurs de droit à vie et à vie et ils ne peuvent être membres du bureau du Sénat. Alors, pourquoi nous mettons un accent particulier sur le Sénat? Parce que une institution qu'on va mettre en place qui est fondamentale, c'est la présidence de la République. Et parlant de président de la République, il ne sera plus élu au suffrage universel direct, mais il sera élu au suffrage universel indirect. C'est-à-dire, là, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui sera mis en place, qui vont se réunir en congrès, qui vont élire le prochain président de la République. Alors, ce que nous voulons demander à ceux qui nous dirigent, parce que il nous reste à moins de 8 mois. Pour mettre en place toutes ces institutions-là. Et c'est beaucoup. Il y a la présidente de la République, il y a le protecteur du citoyen, il y a la nouvelle RAC qui va être mise en place, il y a la présidence du Conseil. Donc c'est lourd. Et je me demande si on aura un délai suffisant pour pouvoir réaliser tout ça. Parce que nous, le centre s'engage à accompagner dans quel sens de rappeler régulièrement à ceux qui nous dirigent que nous n'avons plus assez de temps, mais le boulot que nous avons est lourd. Il faut mettre en place les gouvernorats et tout ça. Donc c'est pour dire au président de la République que la tâche qu'il attend est énorme et que les Togolais aussi l'accompagnent.
D'accord, merci Firmin Teko Agbo pour ces rappels. Alors Thierry, je disais tout de suite que nous allons commencer cette émission avec la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, on sait que c'est le lundi prochain, lundi 16, bien sûr, la rentrée, nos élèves, nos enfants, nos jeunes frères prennent le chemin alors de l'école. Et à votre niveau, à votre analyse, est-ce que vous pensez déjà que tous les préparatifs nécessaires sont faits pour que du moins cette rentrée soit bien assurée?
Je crois que côté officiel, tout est fin prêt pour que la rentrée des classes soit effective le lundi prochain, c'est-à-dire le 16, puisque bien avant cette rentrée des classes, il y a eu la rentrée du corps enseignant une semaine avant la rentrée des classes des élèves. Je crois que tout est fin prêt, tout est préparé. Et le ministère de tutelle continue de prendre des notes pour bien organiser cette nouvelle année académique. Je crois que les enseignants sont prêts, les élèves également se préparent activement. Pour certains, jusqu'à l'heure où nous parlons, ils n'ont pas encore leur cahier, leur fourniture, ils n'ont pas encore leur kaki, ils n'ont pas encore... certains ne se sont même pas encore inscrits, mais ce qui est sûr, c'est que la rentrée a lieu lundi, et je crois que elle va commencer avec ceux qui sont prêts et les autres vont suivre. Donc voilà un peu la situation. Et nous les parents, vous savez, depuis quelques années, et la préparation de la rentrée des enfants, des élèves, est toujours difficile parce que la vie chère est passée par là. Et jusqu'à maintenant, on essaye. Et par la grâce de Dieu, je crois que dès lundi, on aura l'essentiel pour permettre aux enfants d'effectuer effectivement cette rentrée scolaire.
D'accord. Fabien, c'est vrai que la rentrée pédagogique, c'était le lundi passé, le 9, et le 16, ce serait la rentrée académique avec les élèves et tous les autres corps administratifs alors des établissements scolaires. Alors, finalement, est-ce que vous pensez à votre niveau aussi que déjà tout est fait prêt pour que du moins cette rentrée soit effective?
Mais, peut-être au niveau de l'administration, les choses seraient prêtes. Mais est-ce qu'au niveau des parents, de ceux qui animent même profondément la rentrée, parce que ce sont les élèves qui animent profondément la rentrée, si les enseignants se positionnent et qu'il n'y a aucun élève dans l'établissement, il n'y aura pas de cours. Il n'y aura pas de cours et l'État va se sentir un peu déboussolé. Et ça va être tellement compliqué. Donc, ce qui anime profondément la rentrée ou la vie scolaire, c'est tout d'abord les parents qui vont apporter leurs élèves, qui vont leur payer des fournitures, qui vont leur permettre d'aller et qui vont leur permettre d'avoir de l'argent de poche. Et tout ça. Mais la question de savoir si les parents sont déjà prêts. Moi, je m'attendais à ce qu'on reporte. Mais apparemment, l'État est strict sur le 16 et ça va se dérouler. Mais la question est de savoir. Mais aujourd'hui, moi, je me demande si déjà il y a eu un certain accompagnement au niveau de l'État. Peut-être, moi, j'ai cette lacune, je n'ai pas encore cette information. Moi, je m'attendais à ce que l'État soutienne d'une manière ou d'une autre les courses modestes. Les couches modestes pour permettre à tout le monde, à ces couches-là, pas tout le monde, mais les couches modestes pour permettre à ces couches-là de pouvoir aider les enfants à faire de très belles rentrées. Une chose est de faire la rentrée et une chose est de mettre en place toutes les structures qui pourront permettre aux élèves, de bien passer l'année, de devenir beaucoup plus performantes qu'aujourd'hui en 2024.
Alors, c'est vrai que je posais la question par rapport au fait que est-ce que déjà au niveau de l'État, est-ce qu'on est prêt vraiment pour cette rentrée? Je pense qu'il y a quelqu'un qui est bien indiqué pour nous en parler, c'est M. Dondenou Akpaou. Bonjour. Voilà, je pense que votre micro... bonjour.
Bonjour.
Voilà, ça va bien maintenant. Alors, j'espère que vous allez bien, Monsieur Akpaou. D'accord. Je rappelle que vous êtes le DRH au niveau du ministère des enseignements primaires et secondaires, c'est bien ça?
Oui.
D'accord. Alors, c'est vrai, nous sommes aujourd'hui, à pratiquement à 72 heures avant la rentrée scolaire. Alors, concrètement, qu'est-ce qui est fait pour que, du moins, les élèves prennent vraiment les chemins lors des classes le lundi prochain?
Merci. Je pense que lorsqu'il y a un événement, un repas, on le prépare d'avance. C'est la même chose. Donc, les quatre fondamentaux pour une rentrée ou une école sont là. D'abord, il faut qu'il y ait les bâtiments, qu'il y ait les tables bancs, qu'il y ait les équipements nécessaires pour recevoir les élèves. Et qui dit cela dit qu'il y a eu de nouvelles créations d'établissements parce que la population scolarisable augmente. Et chaque année, nous créons, l'État crée de nouveaux établissements. Il y a également les équipements. C'est la première condition avec les livres, avec tout ce qu'il faut comme fourniture. Maintenant, il faut l'encadrement. Qui enseigne? C'est les enseignants. Mais les enseignants sont encadrés. Donc, il faut un certain nombre d'inspecteurs, de conseils pédagogiques pour encadrer les enseignants. Donc, le troisième fondamental, c'est les enseignants, est-ce qu'ils sont en nombre suffisant? Parce que souvent, contrairement à ce qu'on pense, le premier pilier pour l'école, c'est l'enseignant. S'il y a des élèves sans enseignants, ça ne marchera pas. Mais il faut même disposer d'enseignants suffisamment, même avant les former, avant qu'il y ait des élèves. Et donc, le troisième fondamental aussi est là. Et le quatrième, c'est tout ce qui va accompagner l'année. C'est-à-dire les subventions, les enseignants, s'il y a des départs à la retraite, est-ce qu'il y a des prévisions pour les remplacer? Maintenant, est-ce qu'il y a le personnel d'enseignement à former les chefs d'établissement, les enseignants, pour qu'ils mettent en œuvre le programme scolaire et les orientations? Donc, pour tout cela, je pense que nous sommes prêts. Maintenant, qui parle de fourniture, parle des parents. Donc, je pense que c'est ça. Parce que l'année scolaire, c'est un calendrier. Si vous dites qu'il faut commencer en octobre, ça aura une répercussion sur la fin de l'année scolaire. Ça devient assez vicieux. Donc, nous savons que c'est la deuxième semaine de septembre. Comment ? Il y a eu la rentrée pédagogique qui s'est bien terminée avec la formation des inspecteurs qui ont formé les chefs d'établissement et les enseignants. Tous étaient là. Et donc, nous avons fait la revue des troupes. On peut commencer. Les programmes sont déjà prêts. Il y a eu des manuels également rédigés. Plus ou moins, on essaie déjà de les mettre au niveau à leur disposition. Donc, on peut aller maintenant en profondeur sur chaque aspect de ces quatre fondamentaux et pour vous donner plus de détails.
Alors, c'est vrai que vous avez parlé cette fois-ci, alors tout de suite, hein, vous avez parlé de la rentrée pédagogique. Et avec cette rentrée pédagogique, c'est quoi l'objectif? Puisque depuis un temps, nous avons vu quand même que le ministère a initié, a initié deux sortes alors de rentrée. Il y a d'abord la rentrée pédagogique qui vient avant la rentrée académique. Alors, c'est quoi l'objectif?
Voilà, je pense que lorsqu'on ne se prépare pas bien, on n'est pas bien organisé, il y a une répercussion sur toute l'année. Imaginez que nous sommes là, nous disons, c'est le 16, que tout le monde vienne. Et on constate le 16 qu'on avait prévu 200 élèves, on a 300. Qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'à ce qu'on fabrique les tables, ben, ou bien on les cherche quelque part. Vous voyez, ces enfants, les 100 là, qui sont là, supplémentaires, ils vont s'asseoir où? Maintenant, c'est maintenant qu'on va chercher 10 enseignants de plus. Ça aura des répercussions sur toute l'année. Donc, la rentrée pédagogique permet de savoir rapidement combien d'élèves on a inscrits, combien d'enseignants il faut pour ces élèves, est-ce qu'il y a eu les mutations des enseignants, est-ce que les chefs d'établissement sont en poste. Et là, nous avons le nombre d'enseignants pour chaque école, chaque établissement, le nombre de tables, bancs, les infrastructures, et on commence sans problème. Contrairement à ce qu'on voyait avant, on vient, on sacre par ici, on dit, ah, les enseignants ne sont pas en nombre, les élèves là sont en train d'être inscrits, on ne veut pas ça. C'est ça qui fait qu'on démarre, et là, on commence le cours directement le 16.
D'accord. Alors, après la rentrée pédagogique, aujourd'hui, c'est quoi la situation?
Non, la rentrée pédagogique, je vous ai dit, tous les enseignants sont déjà mutés. Déjà en juillet, on a envoyé les enseignants dans les régions. Il y a deux mutations. La mutation interrégionale, c'est-à-dire qu'il y a les départs à la retraite chaque 3 mois. 1er octobre, 1er janvier, 1er avril, 1er juillet. Donc, on voit déjà ceux qui vont partir 1er octobre, 1er janvier, 1er avril. Et là, on fait des mutations des enseignants. Il y a aussi l'ancienneté, certains qui veulent changer d'établissement, etc. On voit aussi ce que nous appelons l'attrition. Malheureusement, il y a des décès, quelques départs, etc. Donc, on comble ça avec les mutations. Et maintenant, en intra, dans la région, on fait aussi des mutations pour envoyer les enseignants dans les établissements scolaires et les écoles. Donc, pendant la rentrée pédagogique, on voit si tout le monde est sur place. Maintenant, est-ce que tout le monde a le programme? Les formations, nous parlons de formation continue, parce que nous sommes en train de revoir les formations avec les nouvelles approches. Est-ce qu'ils sont formés? Qui prend telle classe? Qui prend l'autre classe? Quelles sont les nouvelles? Cette année, les orientations sont en 7 points. Est-ce qu'ils ont compris les orientations de M. le ministre? Comment ils vont décliner l'orientation à leur niveau, en concertation avec les parents, et mettre ça en œuvre avec des programmes au niveau des élèves? Donc, tout ça, là, ça se fait en cascade. Personnel d'encadrement, chef d'établissement, enseignant, et des rencontres avec l'association des parents d'élèves. Donc tout cela a eu lieu et se termine aujourd'hui.
D'accord. Alors, pour ce qui concerne les établissements scolaires, ou du moins c'est la construction des bâtiments, est-ce qu'aujourd'hui, déjà, les élèves qui vont prendre le chemin à l'heure de l'école le lundi prochain, puisqu'on estime même d'ailleurs qu'ils doivent être pratiquement à 3 millions, alors, est-ce que ces 3 millions trouveront vraiment des classes qui pourront les abriter?
3 millions, c'est bon. Maintenant, il faut disséquer. Nous avons 72% d'élèves dans le public. Donc, quand on fait 72%, vous êtes pratiquement sur les 3 millions, vous êtes pratiquement 2 300 000 donc, qui sont dans le public. Maintenant, il y a aussi la part du privé. Donc, nous avons pratiquement 60 000 salles de classe. Et nous parlons des classes pédagogiques. Donc, il y a nécessité. On a créé de nouveaux établissements. Nous sommes autour de 9580 écoles et établissements publics et autour de 4900 privés qui sont régulièrement établis et qu'on doit contrôler également périodiquement. Donc le dispositif, le maillage là est là. Les enseignants sont là. Aujourd'hui, nous n'avons plus tellement de problèmes d'enseignants. Il y a 2 ans, nous avons 41,51% d'EV. Donc, pratiquement, un enseignant ou 2 enseignants, vous prenez 3 enseignants du public, il y a 2 qui sont élevés, ouais, c'était élevé. Aujourd'hui, nous sommes à 8,64%. Et un concours est déjà lancé. Et nous avons 3395 enseignants volontaires. Un concours est lancé pour 4000 enseignants. Donc, parce que nous savons que jusqu'à la proclamation du concours, il y aura encore quelques départs à la retraite. Donc, vous voyez que les prévisions sont là. Et avec ce concours, on aura 0% de V. Vous voyez que... Là. Et maintenant, ce n'est pas seulement ça. On a ouvert les écoles de formation. Déjà, nous avons l'école de formation des professeurs d'école qui forment pour le préscolaire, les jardins d'enfants et le primaire. Donc, la formation continue sur 2 ans. La première promotion a fini ses évaluations hier. Et donc, sera déjà en mesure de prendre les classes avec ce nouveau concours aussi, où on leur a permis de prendre part. Donc, vous voyez que le dispositif est là. Maintenant, les salles de classe sont là. Quand on dit que salle de classe, c'est 2 situations. Quand on crée un établissement, il faut construire. Quand on a déjà créé aussi, il faut entretenir. Et il y a aussi des intempéries. Vous pouvez commencer, il y a un vent qui décoiffe. Bon, c'est des imprévus qu'il faut gérer. Donc aujourd'hui, il y a un besoin de 14 600 salles de classe. Déjà, 4 600 sont construites cette année déjà seules. Vous voyez que sur les 60 000 classes pédagogiques, le problème tourne autour de 10 000 où il y a quelques solutions intermédiaires. On peut faire aussi le double flux. Donc 10 000 sur 60 000, vous voyez que là aussi, l'écart est très réduit aujourd'hui. On a beaucoup progressé.
On a beaucoup progressé, je pense que c'est le souhait de tous les Togolais même d'ailleurs. Alors, intéressons-nous maintenant à la formation. Aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez annoncé tout de suite, qu'il y a même d'ailleurs des innovations et avec des manuels et autres qui vont en quelque sorte intervenir dans la formation hein, pour cette année. Alors, concrètement, quelles sont ces innovations?
D'abord, au niveau des écoles normales, d'école normale de formation des professeurs d'école, le corps normal supérieur à Takpamé, il y aura une antenne qui sera ouverte à Niamtougou pour augmenter le nombre de professeurs de collège. Pour le primaire aussi et le préscolaire, on a comblé le gap. Et le supérieur aussi, le troisième degré, comme on le disait, le lycée, il y a aussi les universités qui forment un master en éducation. Donc, parce qu'on ne peut pas aller sans formation. Là, le statut particulier est clair là-dessus. Donc nous avons résolu ce problème de formation déjà. Et aujourd'hui, nous disposons de plus d'enseignants dans les écoles de formation que de besoins. Parce que nous voyons les prévisions, les besoins pour les années à venir. C'est la première chose. Donc, les modules ou les unités d'enseignement ont pris en compte les difficultés des élèves et les gestes professionnels. C'est-à-dire, si je suis enseignant et dois enseigner au primaire ou au collège, quels sont les gestes professionnels qu'il faut? C'est sur ça qu'on les nomme, c'est ça les compétences acquises, pour que eux-mêmes arrivent à faire acquérir aux élèves les compétences. Et on a parlé d'approche par les compétences qui exigent de résoudre une situation problème. Oh, si on vient vous dire 5 fois 4, vous dites 20. Bon, ça ne rime à rien. Mais si on vous dit, voici, vous avez un terrain qui a telle superficie, vous voulez mettre l'igname, on dit que c'est un mètre de quart, combien vous pouvez mettre pour maximiser, étant donné qu'il y a certaines parties du terrain qui ont tel problème. Vous voyez que ça fait réfléchir l'enfant et ça permet d'acquérir une vraie compétence. Donc c'est dans cela que nous sommes aujourd'hui.
Alors, pour ce qui concerne surtout, là, je sais que mon confrère Thierry a une question pour vous, mais je voudrais poser cette dernière, pardon, avant quand même que je ne donne la parole à Thierry. Alors, monsieur Paou, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend la formation, d'aucuns disent que notre formation ou les unités même d'ailleurs d'enseignement ne sont pas pratiques et donc qu'il faille aujourd'hui que l'État introduit ce que nous appelons surtout l'entrepreneuriat dans l'enseignement. Est-ce que peut-être vous avez cette doléance-là qui vous vienne et que vous prenez des dispositions là-dessus?
Il y a déjà des démarches, puisque le comité national du rapport sur le développement humain, dont fait partie également le ministère des enseignements, a fait ses recommandations et on a essayé d'intégrer ce paramètre dans les programmes. Mais c'est récent. Donc, on ne peut pas intégrer quelque chose aujourd'hui et demain, on voit les résultats. Et quand vous parlez également des écoles de formation, c'est cette année, en ce mois de septembre, que les premiers formés qui ont les diplômes de professeurs d'école vont sortir pour prendre en main les classes du préscolaire et du primaire. Donc, on ne peut pas attendre, disons, des performances quand ceux qui sont formés ne sont pas encore là. Donc, il faut qu'on nous donne au moins une année pour voir comment ils vont faire et ajouter. Mais il y a des stages, il y a quand même l'insertion de ces éléments dans le programme. Mais c'est récent. Il n'y a pas que ça. Il y a la prévention de l'extrémisme violent. Il y a également l'environnement, c'est-à-dire le développement durable. Et pour préserver, disons, les écosystèmes, on intègre ces nouvelles urgences dans le programme.
Thierry?
Oui, j'ai quelques questions à l'invité. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité de l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que le niveau des élèves baisse chaque année pratiquement. Je crois que le ministre a fait cas de cela. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est en vue pour relever ce niveau des élèves, parce que les élèves s'adonnent à autre chose ces temps-ci que voilà, à l'enseignement ou à l'éducation.
Merci. Je trouve la chose un peu plus complexe sur trois angles. Le premier, c'est que il faut qu'on relativise. Le niveau baisse où? Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr que si on amène aujourd'hui un nouveau portable, on nous donne à tous ici, avec notre enfant de 10 ans, après 30 minutes, nous tous nous savons celui qui va mieux manipuler, sans connaître mieux l'anglais ou l'allemand que nous. Je pense que nous sommes d'accord au même moment que nos enfants sont plus intelligents que nous. Ça veut dire que le niveau baisse, peut-être on peut dire la dictée, mais tout ne se résume pas à une dictée ou à une expression écrite ou pas. Donc il faut qu'on relativise quand même. Et quand vous allez à l'extérieur, les étudiants togolais qui sortent de nos universités ne sont pas au dernier rang. Donc, je pense que ces deux situations, quand même, vont nous faire relativiser ce niveau qui baisse. Cependant, nous faisons maintenant une éducation qui prend en compte beaucoup d'élèves. Avant, par exemple, vous allez vous trouver seulement deux ou trois qui ont le bac dans le village. Aujourd'hui, nous avons 3 millions d'élèves pour 8 millions d'habitants. Ça fait 37%. C'est l'un des taux les plus élevés au monde. Donc, l'État fait un gros effort. Donc, quand il y a beaucoup d'élèves, il faut des enseignants. Je vous ai dit qu'avant, on avait jusqu'à 41% d'enseignants et de volontaires, ou bien de classes vides. Aujourd'hui que c'est à 8, il y aura des effets. Aujourd'hui que les écoles de formation ont sorti des enseignants formés qui ont fait déjà 58% du temps en stage pratique, suivi par le personnel d'encadrement, les inspecteurs, les conseillers, les professeurs d'école normale. Nous pensons que même ce que vous dites comme baisse au niveau que nous reconnaissons en partie sur certaines disciplines, va avoir quand même une amélioration. Et c'est sur ça que nous revenons. Et nous pensons que d'ici quelques mois, déjà, nous allons essentiellement voir ce côté-là. Ensuite, il y a aussi le travail coopératif qu'on doit faire Souvent, nous évaluons l'enfant seul, alors que dans la vie, si même vous êtes ingénieur, il faut une chaîne autour de vous pour produire. Donc, il faut qu'on travaille souvent en équipe, qu'on travaille souvent ensemble. Et ce que vous avez dit, on a sorti également une note, une décision qui réglemente l'utilisation des téléphones portables. On n'a pas dit interdiction, mais réglementation. Parce que c'est un outil à double tranchant, un couteau à double tranchant. Aujourd'hui, les élèves, les enfants sont intéressés par ces terminaux. C'est pourquoi nous insérons également dans l'apprentissage des ressources éducatives avec des technologies de l'information de la communication pour que l'enfant, même s'il doit utiliser le portable à la maison ou bien à l'école sous la surveillance de l'enseignant, que quand même qu'on touche les nouvelles méthodes d'enseignement aussi et qu'on donne beaucoup plus d'accès aux parents. Et le monsieur le ministre, dans ses orientations, a mis également l'accent sur les conseillers principaux d'éducation, les surveillants. Parce que ce que vous dites là, l'éducation c'est un tout. Quand vous avez un lycée de 2000 élèves sans surveillants, le professeur finit son cours par ce que les enfants font pendant les heures libres, est-ce que voilà, personne ne suit. On dit ils fument la drogue derrière. Bon, personne n'est là. C'est pourquoi tous les établissements, tous les élèves à partir de 500 élèves ont au moins un surveillant. Quand c'est 1500, ça fait 3. Pour que ces surveillants-là vont être formés sur 3 points. D'abord, la discipline, mais l'autodiscipline de l'élève et l'accompagnement de l'élève à réussir son projet personnel. Si c'est en mathématiques le problème, c'est parce qu'à la maison, il y a un problème. Quelquefois, les enfants dorment trop tard, il n'y a pas un programme, ils ne sont pas suivis, etc. Il va identifier ce problème, travailler avec les parents, travailler avec la direction et l'élève. Et là, on va résoudre le problème. Parce que le problème de BSEO d'apprentissage, ce n'est pas uniquement le cahier. Il y a tout ce rôle-là qui doit être joué par certains. C'est pourquoi maintenant, on a nommé assez de surveillants généraux, comme on les appelait maintenant, conseillers principaux d'éducation, pour qu'on ne voit pas ce problème-là autour de nos lycées, etc. Et ça participe aussi à s'organiser et à réussir.
Alors, une question. Alors, vous avez au programme, le ministère a au programme de continuer la construction des salles de classe. Entre-temps, le ministre avait demandé aux chefs d'établissement de disposer les écoles de titres fonciers pour les écoles qui n'en ont pas. Ce que moi, j'aimerais savoir, avant de continuer par construire, est-ce que l'existant, vous assurez que l'existant est en bon état, puisque pas plus que l'année passée, il y a eu l'écroulement d'une salle de classe avec décès et tout. Est-ce que vous assurez que l'existant est en bon état? Et cela m'amène aussi à poser une autre question par rapport au lycée du 2 février.
Mais
où en est-on?
Voilà. Mais merci. Merci. Certains nous ont dit que non. Vous avez fermé ce lycée, mais les murs tiennent. Mais quand 2000 personnes font des mouvements chaque temps, ce n'est pas la même chose que vous pouvez laisser un bâtiment sans toucher, ça peut faire plusieurs années. Mais quand il y a l'affluence, au même moment, ça peut entraîner autre chose. Donc, pour répondre d'abord pour le lycée 2 février, et vous allez voir que la fermeture là n'a pas occasionné de dégâts. Parce que c'est ça les prévisions prévoir. Le lycée de 2 février à Gbalepedo. Donc, comment on savait qu'il fallait fermer, refaire les comptes? Ça peut faire un an ou deux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Les lycées, d'une manière concentrique, les lycées qui sont vers Anguera, on a doublé leur capacité. On a construit plus. Les CEG qui sont là-bas ont été transformés en lycées. Ça fait que ceux qui quittaient les Anguera pour parler à Madaromo, ils sont restés. On a fait la même chose à Madaromo, le CEG est transformé en lycée. Ceux qui étaient à Madaromo pour Avedji sont restés. On a fait la même chose pour Avedji. Ceux qui étaient à Avedji pour le lycée de Dieu sont restés. Ce qui fait qu'on a fermé le lycée, mais tout le monde a tenu à gagner. Et même ça a permis aux élèves de ne plus faire de grandes distances. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas. Mais on a pris ces mesures-là et on a déployé suffisamment d'enseignants. Par exemple, l'année dernière, on a muté, on n'a affecté aucun enseignant du lycée de Lomé pour l'intérêt. Parce qu'on savait qu'il y avait ce problème et on doit faire face à l'augmentation du nombre d'élèves au même moment à cette fermeture. Donc, la fermeture est réglée en augmentant les capacités des lycées environnants, en la transformant en créant, en augmentant également le nombre d'enseignants pour recevoir les élèves. Donc, ce n'est pas a priori un problème immédiat qui n'est pas gérable. Mais les constructions vont prendre le temps. C'est les ingénieurs qui savent combien d'années il faut faire les études techniques. Ce n'est pas le ministère a des personnels pour ça, mais on laisse pour que ceux qui ont eu le, disons, le marché fassent un bon travail. Mais on a pris ces dispositions-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vous ai dit que c'est 14 100, on a construit 4 600, il reste 10 000. Ça veut dire que même si vous construisez aujourd'hui.
Et le ministre a promis que d'ici 2025.
Voilà.
Tout à fait.
Voilà. Et nous sommes en marche avec les privés, les autres aussi, pour que ça marche. Mais on renforce quand même ce qui est là. Si c'est un appartement amélioré, quand même on voit si ça peut tenir. Si ça ne veut pas tenir, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire le flux. Certains viennent à une heure donnée, d'autres reviennent.
Voilà.
Donc on essaie aussi de faire ça pour que les élèves soient quand même dans des situations, dans des murs qui soient sécurisants. Et ce n'est pas seulement pour le public, le privé aussi. Il y a le comité central de contrôle des établissements privés qui, chaque année, parcourt...
Cette année encore, je crois, il y a certaines écoles qui sont fermées.
Voilà. Donc, nous sommes...
Est-ce qu'il y a un suivi que, véritablement, ces établissements-là n'opèrent plus?
Non, mais on a la cartographie des écoles. Les 9580 sont référencés. De même que les privés, on est en train de le faire. Donc, on sait là où ça se situe. On a des informations et nous continuons à renforcer ce maillage. D'ailleurs, le nombre d'inspecteurs pour Lomé est un peu élevé parce qu'eux aussi participent à ce contrôle. Parce qu'ils sont là seulement, pas seulement pour le public, mais pour le privé aussi. Nous travaillons avec les associations de parents d'élèves, l'Union, les fédérations de parents d'élèves aussi. Parce que ça va... au niveau de la sécurité de nous tous, des enfants, de tout le monde. Donc, ce sont des partenaires qui nous aident aussi à identifier rapidement ces problèmes.
D'accord. Firmin, vous avez une question. Alors, Monsieur Baou, c'est vrai, vous avez touché tout de suite la question de la réglementation de téléphone portable. On sait qu'il y a un arrêté interministériel qui a réglementé même d'ailleurs cela tout récemment. Alors, en quoi les parents vont jouer, même d'ailleurs, un rôle très important dans cette réglementation.
Merci. Oui, d'abord, c'est une décision interministérielle entre le ministre des Enseignements primaires et secondaires, le ministre de l'Enseignement technique de la formation professionnelle de l'apprentissage du 5 septembre 2024 récent. En son article 3, la décision est claire. La décision cite les cas où on peut utiliser le téléphone portable. C'est deux cas majeurs, cas d'urgence. Un enfant est malade, il faut qu'on appelle son parent. Ou bien il a fini, il va appeler le parent pour qu'on vienne le chercher, ou bien ils ont fini plus tôt. Nous n'avons pas pris une décision quand même sous le coup de quoi que ce soit.
Et ce n'est pas radical aussi.
Voilà. Et le deuxième point d'utilisation, c'est à des fins pédagogiques. Le portable, c'est un terminal. Nous avons aujourd'hui 860 collèges d'enseignement général. 91 lycées de seconde en terminale.
Terminale, oui.
Et 259 lycées assez complets de la sixième en terminale. Et au moins les deux tiers de ces établissements ont reçu des ordinateurs. On a une salle informatique. C'est dans quel but? C'est d'utiliser ça. Parce qu'aujourd'hui, si nous venons ici pour amener les encyclopédies, on peut mettre dans votre studio ici, ça ne peut pas suffire. Alors qu'avec un ordinateur, on peut avoir toute la bibliothèque du monde. Donc, nous en sommes conscients. C'est pourquoi les établissements ont ces outils. Donc, le portable aussi peut être un outil pour avoir des informations. C'est au professeur ou à l'enseignant de dire, bon, on cherche tel mot, il peut utiliser son portable ou tel. Et ça se confine là-bas. Mais utiliser le portable pour envoyer des images obscènes, pour faire des vidéos telles qu'on a vu en temps, ça sera contre-productif. Donc, c'est ça qu'on refuse. Ou bien on fait le coup, l'élève utilise le portable pour envoyer des messages, faire du WhatsApp, qui n'a rien à voir avec le cours. Son temps d'apprentissage diminue. Après, on dira que le professeur n'a pas bien travaillé. On ne verra pas que l'élève n'a pas bien utilisé ton temps. C'est l'utilisation à bon escient du temps d'apprentissage et du temps d'enseignement qui compte. Maintenant, les parents doivent veiller et prendre la suite. Et je vous ai dit, avec l'implication des surveillants généraux aujourd'hui, conseillers principaux d'éducation, et vous verrez que toutes ces mesures-là vont quand même être bien mises en œuvre.
D'accord. Alors, M. Paou, c'est quoi la vision par rapport surtout à l'école de la République, puisque c'est une expression qui tient tellement à cœur au ministre de l'enseignement ou des enseignements primaires et secondaires. C'est quoi cette vision, c'est-à-dire l'école de demain ou l'école de la République pour demain? Qu'est-ce que cela sera?
C'est clair, Monsieur le ministre, à chaque rentrée, envoie la lettre d'orientation. Cette année, la note d'orientation, c'est une note circulaire du 9 septembre pour entamer même la rentrée pédagogique, était en 7 points. Donc, je vous rappelle rapidement les points. Premièrement, c'est des écoles-projets. Et je vais citer les points. Deuxième point, c'est le déploiement efficient des enseignants. Troisième point, c'est la pérennisation de la formation initiale dans les écoles normales pour avoir de bons enseignants, et suivi d'un autre point important, l'évaluation. Tout ce que nous faisons, vous avez parlé de niveau, etc., comment renforcer cela. Ensuite, il y a la formation continue, parce que même si on vous forme quelqu'un aujourd'hui, il est couturier, et c'est le modèle de 1995 qu'il a appris, qu'il fait, ça ne peut plus marcher. Il faut la formation continue. Il y a l'implication, on va parler des bâtiments, il y a l'implication des acteurs et des partenaires et la concrétisation des 10 orientations de l'année scolaire 2023-24 qui n'ont pas totalement abouti. Voilà. Donc, quand je les prends un à un, le premier point, c'est les écoles-projets. C'est-à-dire, à l'école, on nous apprend, par exemple, des équations. On nous apprend les roches. Mais il faut qu'on soit en mesure de disposer ces roches pour filtrer l'eau.
Tout à fait.
Il faut aller. On nous montre la station météo. Il faut qu'on ait la petite station météo. On met les équations, mais on peut fabriquer le savon. On ne veut pas parler, par exemple, au temps de Covid. Alors qu'à l'école, on peut apprendre à faire ça. On en a fait dans certains établissements. Donc, on généralise cela pour que chaque école arrive à concrétiser l'apprentissage. Donc, on va les suivre, mais la note précise. Et on va mettre à leur disposition des informations supplémentaires. Et il y aura des rencontres. C'est pourquoi nous avons créé des périmètres. Les 9580 écoles et établissements scolaires avec les 4900 privés sont dans 1800 périmètres pédagogiques où les écoles sont ensemble pour être encadrées au niveau des enseignants ou pour réaliser cette ou pour échanger le matériel. Il y a un microscope. On peut utiliser aujourd'hui le matin. Il faut faire des emplois du temps. Tout est pour faire d'organisation. Si, par exemple, tous les lycées n'ont pas de microscope, c'est 3 sur 10 qui en ont. On fait l'emploi du temps pour que le cours qui concerne le microscope ne soit pas fait au même moment. Pendant qu'on fait le cours quelque part pour utiliser le microscope, et on fait un cours d'histoire et on échange dans le périmètre pour que les enfants apprennent réellement. C'est encore les gens le bac, COD, mais ils n'ont jamais manipulé, ils n'ont jamais vu. Donc, si vous mettez l'acide dans une boîte, il peut voir parce qu'il pense que... Donc, on a mis fin à ça. Et ça va se jouer dans les périmètres pour renforcer les écoles qui ont des problèmes. On va voir que chaque école, chaque élève ou chaque groupe d'élèves crée. Donc, ils vont faire... Les groupes vont créer individuellement les élèves. Ils seront notés. C'est pourquoi l'évaluation est en lien. Pour que vraiment, tel que le sommet mondial sur la transformation de l'éducation de New York de septembre 2022 l'a dit, l'a recommandé, conforme les élèves à l'acquisition de compétences tout au long de la vie, des compétences réelles. Donc, c'est ce que nous faisons. Maintenant, quand ils seront habitués, quand un élève trouve que j'ai fait la physique et ma radio a un petit problème de circuit électrique, j'ai fait, c'est-à-dire à son niveau, on n'a pas dit de ferme la nucléaire. Donc, ils seront très intéressés. Ils vont réussir. Ils seront motivés, et même quand certains auront le PPC, ils peuvent aller dans d'autres écoles techniques et autres, ou bien continuer avec les séries scientifiques, parce qu'on en a besoin également. Donc, il faut donner l'envie, il faut que les élèves y aillent.
D'accord.
Donc, et là-bas aussi, il faut l'inclusion. Donc, ceux qui ont des handicaps doivent aller à cette école de la République. Donc, à cette école de la République, on doit développer la citoyenneté. C'est-à-dire que c'est pourquoi le ministre en joue rapidement pour qu'à cette rentrée, on finisse d'élaborer des manières de citoyenneté. Parce que tout part de là. Si vous formez les gens, ils n'ont pas la fierté de leur pays, ils vont partir. S'ils sont bons, ils vont partir ailleurs. Il faut cette fierté pour respecter les lois, pour servir le pays au-delà de ce qui est requis. aimer son pays. Donc, il y a aussi ce paramètre. Nous voyons tout ce qui se passe dans la rue, les dépotoirs sauvages par ici. On veut mettre fin à ça. Les déboisements, tout cela. Donc, c'est ça, cette école de la République qui forme aux compétences réelles en toute inclusion et pour qu'on ait de vrais résultats, des résultats réels.
Monsieur, aussi ce point, avant que je ne donne la parole à Thierry, sur ce point concrètement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est décrié, c'est l'incivisme chez le Togolais. On se dit, mais déjà, à l'école, on doit, auparavant, on se souvient même d'ailleurs de cette matière-là qu'on faisait, qui est la morale, on se demande si ça continue encore dans les établissements scolaires. Alors, finalement, qu'est-ce que vous allez faire pour que, du moins, le patriotisme et aussi le civisme soit de mise alors chez les élèves.
Voilà. Et, il y a des choses. C'est pourquoi nous disons cette école-là doit être une école qui forme aux compétences réelles. Si quelqu'un vous dit quelle est la devise du Togo ou bien quelles sont les valeurs, il dit bon, il faut la paix, il faut aimer son prochain et bon, et qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver la nature? Il ne faut pas couper les arbres. Et que ça vous lui donne 10 sur 10. Ça va donner ce qu'on doit voir aujourd'hui. Il dit mais il faut planter les. Est-ce qu'il a planté? Est-ce qu'il a arrosé toute l'année? Comment il a entretenu cela? Il dit, il faut respecter l'autre. Est-ce que dans les clubs au niveau de l'école, en classe, est-ce qu'il respecte son camarade de classe, etc.? Est-ce que quand vous enseignant, quand quelqu'un a besoin d'un stylo, d'une craie, est-ce que vous pouvez prendre chez l'autre sans distinction d'ethnie, etc., pour que l'autre comprenne que, ah, dans cette classe-là, nous venons de partout et nous sommes obligés à nous unir. C'est qu'il n'y a pas d'acte qui, disons, s'ajoute à cette façon d'enseigner, qui est trop théorique et qui ne veut pas former de vrais citoyens.
D'accord. Et alors, vous voulez ajouter quelque chose?
Non, mais pour dire que, et que l'enseignant est... Et les parents d'élèves aussi également travaillent ensemble. Parce que vous dites citoyens, il faut que les deux soient ensemble pour s'entraider.
D'accord.
Donc ça aussi contribue quand même à asseoir je voulais ajouter, si ça ne vous dit pas, dans cette école de la République, et la sixième orientation, c'est l'implication des acteurs. Lorsque vous parlez de foncier, de quand aujourd'hui on veut construire bien les écoles, mais la population augmente. Nous sommes à 2,3% de taux d'accroissement naturel au Togo. C'est encore élevé. On n'a pas encore atteint la transition démographique de 2,1 enfants par femme. Donc, la population va toujours croître. Mais quand vous voyez certains quartiers de Lomé, est-ce qu'il y a encore le terrain pour que vous construisez dans 5, 10, 20 ans dès les écoles? Mais comment on fait? Il faut l'implication de tous les acteurs. Parce que si vous envoyez vos enfants dans le privé, c'est vous qui payez. Mais si l'État veut vous aider, il faut que vous arriviez à quand même sécuriser un domaine pour qu'on vous construise. Quelquefois, on crée les établissements, mais il n'y a pas de place pour construire, ou bien il n'y a pas vraiment, disons, un papier comme les gens le disent. Et on n'a pas créé le titre, ou bien on n'a pas une sécurisation de ce foncier. Ailleurs, vous voyez, il y a le domaine qu'on vous laisse pour créer l'école, mais c'est un bas-fond. Donc, vous voyez que il y a. Les 10 000 qui restent, la volonté ne viendra pas seule du ministère. Il faut que tous ces acteurs-là s'impliquent également.
D'accord. Alors, les manuels utilisés dans nos établissements scolaires, comment ça se fait, la conception et l'édition, c'est propre au Togo?
Il y a plusieurs manières de faire, et ça dépend des manières. Mais l'option qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est des Togolais, on en a beaucoup de personnes, on en a beaucoup qui s'y connaissent. Donc, c'est des Togolais qui sont formés à élaborer des manuels, qui les rédigent. Ils rédigent jusqu'à l'étape qu'on appelle l'étape manuscrit. C'est-à-dire, on a finalisé. Maintenant, les infographistes vont mettre les images, les photos par-ci, par-là, avec les droits y afférents. Et maintenant, l'édition peut être confiée à une société de la place où à une société étrangère avec les règles d'opération de marché pour imprimer. Donc ça, c'est les étapes. Donc l'étape d'élaboration, c'est-à-dire selon une charte graphique, une charte éditoriale, parce que si vous voulez enseigner l'histoire ici, vous n'allez pas aller prendre un livre du Bénin, parce que c'est propre au pays. Si même vous voulez enseigner de choses, il faut voir la ligne éditoriale. Quelle valeur le document doit quand même promouvoir. Donc,
tout à fait.
On suit les deux. On arrive jusqu'à l'étape de tapuscrit. Maintenant, l'édition, on peut confier à n'importe qui, mais souvent, ça revient à l'État qui se rapidement donne quand même les prérogatives et envoie ces manuels-là dans les établissements à temps. Mmh. Donc, voilà les étapes.
D'accord. Monsieur Paou, merci hein, d'avoir répondu à notre invitation et merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je sais que nos auditeurs ont beaucoup de questions à vous poser. Le principe de l'émission, c'est que déjà à partir de midi, nous allons leur donner aussi la parole pour que, du moins, s'ils vous posent alors des questions. Et je rappelle que vous êtes Monsieur Paou, Dondenou, directeur des ressources humaines au ministère des enseignements primaires et secondaires. Donc, vous restez avec nous dans quelques instants. Nous allons donner la parole à nos auditeurs. Ils vont vous poser des questions. Alors, chers confrères, je voudrais quand même qu'on débatte alors d'un certain nombre de sujets avant quand même d'aller à la pause et donner la parole à nos auditeurs. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse un peu à cette question de FOCAC. FOCAC, bien sûr, avec ses derniers développements, hein, il y a le journal L'Éveil de la Nation qui titre à ça « Le Togo au FOCAC 9, un bilan au-delà des attentes ». Et également d'autres journaux hein, sont revenus sur cela, sur cette rencontre entre la Chine et l'Afrique. Le Togo en a participé, bien sûr, et avec la présence effective alors du président de la République. Alors, Thierry, quand on prend une telle rencontre, on pourra dire que le Togo pourra sortir aussi profitable, pourra avoir quelque chose alors de ces rencontres.
Oui, je crois que tous les dirigeants qui était à ce rendez-vous-là à Pékin, il était pour se faire financer un projet ou plusieurs projets. Je crois que le Togo est revenu avec des signatures, puisque les reportages que nous avons vu, sur lesquels d'ailleurs nous avons travaillé, le chef de l'État a eu plusieurs rencontres. Il a rencontré les hommes d'affaires chinois, puisque notre pays a besoin d'investissement pour se positionner dans plusieurs domaine. Donc,
la bonne nouvelle, c'est que l'entreprise Huawei va s'installer très récemment
à échanger avec le responsable de cette entreprise-là. Donc, on attend de voir, puisque le Togo est en train de digitaliser tous ses services. Donc, avoir l'appui de Huawei dans ce domaine-là, je crois que ça serait important. Maintenant, l'enveloppe qui est donné, je crois, c'est
50 milliards.
Nous sommes 54 pays, 53 étaient présents. Donc, quand vous faites la répartition, vous voyez que ce n'est pas beaucoup de choses. Donc, il faudrait que nous puissions continuer pas mobiliser en interne et que quand on investit dans des projets, il faut qu'il y ait un véritable suivi pour que l'argent ne soit pas gaspillé. C'est très important. Et puis, j'ose croire que les projets que le Togo a soumis à ce FOCAC-là, ces projets-là seront financés. Parce que ce qu'on ne nous dit pas, c'est chaque pays vient avec des projets qui sont financés. Donc, si l'un ou des projets d'un pays donné intéresse la Chine, c'est en ce moment que la Chine accompagne le pays dans sa
réalisation. Merci beaucoup Thierry. Alors, Firmin, c'est vrai qu'en marge alors de cette rencontre hein, ou de FOCAC, on a eu même d'ailleurs une rencontre hein, concernant surtout la gouvernance, la bonne gouvernance, et le chef de l'État même a été l'invité spécial alors de cette rencontre. Alors, et au cours de cette rencontre, le chef de l'État a expliqué de fond en comble les réformes hein, constitutionnelles et institutionnelles qui sont faites alors au Togo. Et on l'a écouté, il expliquait même avec clarté, même d'ailleurs, cette nouvelle constitution. Alors, est-ce que vous comprenez le fait que le président de la République ne s'est jamais prononcé sur ce sujet à l'intérieur du pays ou bien dans le pays, et que c'est à l'extérieur plutôt qu'on écoute le président de la République s'exprimer là-dessus?
Oui, c'est un chef d'État et il a des conseillers. Il savait qu'au moment où il y avait assez d'agitation relativement à la constitution, se prononcer peut-être aurait compliqué la situation. Et aujourd'hui, c'est qu'il a la maîtrise de la situation. Parce qu'au début, il ne maîtrisait pas trop. parce que c'était difficile. Déjà, assez de personnes parlaient, assez de... Il y a les évêques aussi qui se sont prononcés. Donc, un chef d'État qui se prononce dans ces moments difficiles, cela aurait vraiment compliqué la chose. Aujourd'hui, la promulguée, le test, c'est devenu la loi fondamentale de la République. Pourquoi ne pas se prononcer sur le sujet si on le lui demande? Et aussi, vous avez dit, il s'est exprimé avec clarté, ça veut dire en réalité que, excusez-moi l'expression, ce chef-là, il maîtrise la situation.
Mais est-ce que ça ne veut pas dire que cette nouvelle constitution émane vraiment de lui?
Oui, bien évidemment, ça veut dire maîtrise. Ça émane de lui. Vous croyez que quoi? Ça doit émaner de lui, c'est lui, la constitution lui donne droit. On dit l'initiative de révision appartient concurremment au chef de l'État. Au premier ministre, c'est un cinquième des députés. Peut-être ça émanerait d'un cinquième des députés de l'Assemblée nationale. Et quand on lui soumet, et il voit que le sujet est intéressant, mais ça m'intéresse, ça peut m'aider. Tout d'abord, à tranquilliser, à stabiliser mon pouvoir, et aussi de l'autre côté, à aider un peu la population par rapport à la constitution de 92. Et il saute là, tout de suite là-dessus. Et il a dit quelque chose d'intéressé, il dit la révision constitutionnelle, ça renforce la démocratie. Oui, ça c'est vrai, parce qu'en réalité, la constitution, c'est un élément dynamique. Si vous élaborez une constitution, vous la promulguez, et du jour au lendemain, un groupe d'individus, peut-être constitutionnellement, se dit, monsieur le président, on peut modifier la constitution, il faut leur donner le droit, mais l'essentiel est que cela arrive à être adopté, soit dans l'Assemblée nationale, ce que nous venons de voir avec le Togo, soit par référendum. Maintenant, l'autre chose que je voudrais ajouter, je voudrais aussi aller dans le même sens que Thierry. Vous savez, la Chine est en Afrique depuis le 19e siècle, le 20e siècle et le 21e siècle. L'Occident est en Afrique depuis le 19e siècle, le 20e siècle, le 20e siècle. Mais on a eu des expériences peut-être formidables ou non avec l'Occident. Est-ce que ça nous a permis de nous développer? Non. La Chine est là, était là depuis le 20e siècle, le 21e siècle. Est-ce que ça nous permettra de nous développer? Non. Ça ne peut pas nous permettre de nous développer. On n'aura que de bribes de développement. Mais ça ne nous permettra pas de nous relancer véritablement. Regardez, Thierry, après quoi on dit, après un développement qui est impressionnant. On dit, 50 milliards de dollars pour 53 États. Écoutez, mais quand on fait le petit calcul, on s'amuse à faire le petit calcul, ça veut dire que le Togo n'arriverait pas à toucher 1 milliard. Mais regardez, supposons que le Togo arrive à toucher 1 milliard. Ça va sur 3 ans. 1 milliard, ça fait 600 millions de dollars. 600 milliards de dollars, vrai faux. Maintenant, on divise par 3. Ça fait 150 milliards globalement. 150 milliards par an. Maintenant, 150 milliards par an, ce n'est pas la liquidité qu'on viendra de notre Togo. Peut-être on a dit, peut-être au niveau des infrastructures routières, la Chine d'affaires, si, au niveau des ponts, si, tout ça là. Maintenant, en 3 ans, est-ce qu'on va avoir un développement impressionnant? Non. Qu'est-ce que je vais essayer de démontrer? Le développement, en réalité, c'est à nous de nous asseoir pour pouvoir dire, voilà où est-ce que nous voulons aller. Voilà, nous voulons aller ici, et peut-être nous allons adopter un plan Marshall sur 20 ans, sur 30 ans, pour dire, dans les 30 années, voilà ce que nous voulons devenir. Et je répète toujours, je cite toujours cet exemple allemand, que quand les Allemands ont sorti de la guerre, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ces 50 ans pour construire cette nation? Les Africains n'arrivent pas à le faire. Moi, je salue un peu le développement qu'a fait tout à l'heure le patron du système éducatif, il sait bien tout ça. Mais en réalité, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas tout d'accord parce qu'en réalité, c'est comme des réformes. Chaque année, on fait de petites réformes. Mais pourquoi ça sert pour dire maintenant, c'est on assied la politique nationale de l'éducation et on fait de grandes réformes. La dernière réforme qu'on a eu à faire, c'était en 1975. C'est au 21e siècle. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, lui-même l'a dit tout à l'heure. Mais il faut qu'on arrive à soit de grandes réformes qui pourront relancer véritablement le système éducatif togolais. Sinon, dans ces conditions-là, on va toujours les critiquer. C'est ce que moi je souhaite pour le président de la République togolaise, qui se dit en réalité, les gars, vous savez, voilà où est-ce que je veux aller. Même si je ne veux pas rester longtemps, peut-être je ne veux pas mourir au pouvoir, mais il faut qu'on se dise, il y a une Togo vision 2030, Togo vision 2050. Développer.
D'accord. Ok, Thierry, je voudrais qu'on dise un mot par rapport au Sénégal, où on sait que le tandem Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont au pouvoir, j'allais dire. Alors, finalement, hier, dans son discours, le président sénégalais Diomaye Faye a dissous l'Assemblée nationale, puisque depuis un temps, l'Assemblée nationale, qui est en quelque sorte de part des députés de l'ancien président Macky Sall, constitue un blocage pour les réformes au niveau même d'ailleurs de ces deux personnalités alors au pouvoir. Finalement, on dira que les deux ont maintenant une autoroute.
Non, pas encore, parce que là encore, je crois qu'il a annoncé les législatives en novembre prochain. Il faudra qu'on attend ces législatives-là et qu'on va voir la suite. Est-ce que le parti Pasteur sortira gagnant de ces nouvelles élections ou pas, avant de dire si Diomaye Faye aura un boulevard devant lui ou pas. Ça était prévisible, parce que quand ils étaient, il y a encore quelques mois dans l'opposition, il menait la vie dure au président Macky Sall. Vous avez vu tout ce qui se passait au niveau de l'Assemblée nationale sénégalaise. C'était pas facile. Maintenant, on les attendait au tournant et ils ont calculé. Vous savez, en politique, tout est question de calcul. Hein. Ils ont calculé le temps, ils ont fait durer les choses jusqu'à ce que la Constitution ne soit de leur côté pour dissoudre l'Assemblée nationale. C'est ce qu'ils ont fait finalement, alors qu'on attendait son coup passer à l'Assemblée nationale, sa déclaration de politique. Donc ils les ont feintés jusqu'à ce que on aille à la dissolution de l'Assemblée nationale. Maintenant je crois qu'ils sont au pouvoir, ça fait déjà quelques mois. Je ne sais pas s'ils ont encore cette bénédiction de la population pour leur permettre d'avoir une majorité pour la nouvelle législature. On attend de voir ce que ça va donner. Mais tout cela, c'est un fait normal.
C'est dans l'ordre normal des choses.
Voilà.
D'accord. Alors, oui.
Deux petites choses. Le duo, tout d'abord, est en train de subir Macky Sall et va subir Macky Sall jusqu'à la fin de son mandat. Je n'ai pas du duo. Qu'est-ce qui se passe? La source est quoi? C'est-à-dire en 2019, Macky Sall avait fait modifier la constitution et il avait institué un régime présidentiel. Mais vers la fin de son règne, il se dit non, je ne peux plus évoluer avec le régime présidentiel, il me faut un premier ministre. Mais là, il fait nommer un premier ministre, il ne modifie pas le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mmh. C'est là que se pose le problème. Mmh. Parce que donc, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas le plus de premier ministre et il n'y a pas cette histoire de déclaration de politique
générale. Tout à fait.
Donc, mais il nomme Amadou Ba, lui, il respecte la tradition républicaine, qui se positionne devant l'Assemblée nationale pour faire sa déclaration de politique générale. Bien que cela ne soit pas mentionné dans le règlement intérieur. Maintenant, eux, ils sont partis, le jour où le duo arrive au pouvoir. Maintenant, l'Assemblée nationale dit, monsieur le premier ministre Sonko, venez faire votre déclaration de politique générale. Ousmane Sonko dit, non, cela ne figure pas dans les dispositions du règlement intérieur.
Mais il n'a pas raison de
le dire. Il a raison de le dire. Parce qu'il est là peur.
Oui.
Parce que l'Assemblée est dominée par les députés Macky Sall.
Tout à fait.
Mais les gars disent non, viens le faire. Moi, parce que donner notre désir, il dit non. Ok, les gars disent bon, puisque tu as dit non, tous les tests que vous allez envoyer comme projet, on va bloquer.
Et c'est ce qui se passe.
Et c'est ce qui se passe. De la première chose. Et c'est ce qui se passe. Et maintenant, le pays est bloqué. Les choses n'avancent plus. Les jeunes, on les critique dans la rue, par rapport à la politique interne, par rapport à la politique internationale. Et Diomaye Faye se dit maintenant, je ne peux plus évoluer comme ça. Il a l'avis du Conseil constitutionnel qui lui dit, ok, tu peux dissoudre. Mais là, il dissoudre, il se met dans des situations pas posées. Parce que le même engouement avec lequel il a été élu en mars, c'est un peu le même engouement parce qu'il y a déjà assez de critiques. La vie est de plus en plus chère au Sénégal. Sur le plan international, il allait voir, entre guillemets, celui-là que les panafricains ne veulent pas voir. Ouattara, il est allé en France dire bonjour à Emmanuel Macron, les Sénégalais ne sont pas d'accord. Et de plus, il ne soutient pas non plus fondamentalement les Sahéliens. Il a dit les Poutines Sahéliens. Oh, les Sénégalais se disent, ce monsieur nous a trompés, et il s'est en train de nous berner. Maintenant, on attend le 19 novembre. Maintenant, ce qui est sûr, peut-être très difficile pour le pasteur d'avoir la majorité. S'il arrive à avoir la majorité, donc on va reconduire Ousmane Sonko. Mais au cas échéant, lorsqu'il n'arriverait pas à avoir la majorité, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver dans une certaine fracture, comme ce qui se passe en France. Donc on va être obligé d'aller chercher un premier ministre. Peut-être qu'il va avoir une certaine adhésion des députés. Et ça va être compliqué pour les années à venir, pour le duo du Diomaye Faye Ousmane Sonko.
D'accord, ok. Je pense que nous allons arrêter là par rapport au débat. C'est vrai que nous n'avons pas eu assez de temps pour parler même d'ailleurs de ces sujets. C'est compte tenu quand même alors de l'importance de l'actualité, l'urgence, bien sûr, de l'heure, compte tenu même d'ailleurs de cette rentrée, la rentrée scolaire. Et donc, nous allons maintenant vous donner la parole. Vous pouvez vous exprimer et nous poser des questions à M. Akbaou qui est avec nous. Et c'est sur le 90 86 35 35 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'accueillir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la presse de ce vendredi. Vous comprenez que nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur que nous avons en ligne. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Je vais bien, et vous?
Ça va aussi par la grâce de Dieu. Votre nom, c'est?
C'est Monsieur Lee.
Monsieur Lee.
Nick.
Ah, Nick. Oui, vous nous appelez de quel quartier?
De Diranaoui.
De Diranaoui, allez-y.
Oui. Je voulais rebondir par rapport à ce que M. le directeur a dit quand on lui a posé la question concernant le niveau des élèves. Il a pris un exemple qui ne cadre pas. Puisqu'il a dit que les enfants savent manipuler les téléphones. En fait, les téléphones, c'est des outils qui ont été fabriqués et qu'on a installé les logiciels sur ça. Il suffit de savoir lire, tu cliques, ça te dit fais ça, fais ça, fais ça. Je trouve bien que c'est une façon de suivre les choses pour aboutir à quelque chose. Et si on va dire que faire ça nécessite l'intelligence, et ceux qui ont fabriqué ça, on va dire quoi? Normalement, il doit chercher une solution par rapport à ça, parce que quand vous prenez un étudiant, aujourd'hui, tu lui dis, 9 à 9, il ne sait pas. Tu lui dis, il fait une phrase, il te fait une phrase, il y a rien dedans, tout est flat. Donc, vous voyez que c'est du temps en face. Ce n'est pas fait l'histoire que le téléphone, les enfants sont manipulés. Donc, pour chuter, pour la citoyenneté, vous voyez, s'il y a la résignation, parce que les Togolais sont trop coincés, et dans leur tête, c'est très chaud. Là, on n'a plus le temps de tout ce qu'ils sont en train de dire là. Il faut que l'homme soit libre dans la tête pour pouvoir être vraiment parmi la société et faire ce que la société veut. Je vous remercie.
D'accord. Merci beaucoup, M. Nick, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. Après, M. Nick, nous avons un autre auditeur. Allô?
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, comment vous allez?
C'est au CENI.
Mon message est bien à moi.
D'accord, allez-y.
Bonsoir, le plateau.
Oui.
Je voudrais souhaiter bonne chance à tous les voulants. Et surtout, il faut que les voulants revoient leur ancien carré. La révision. Merci et bonne chance.
Merci. Merci beaucoup, Cédé, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô, bonjour, monsieur.
Bonjour, comment vous allez?
Alors bien, je m'appelle Dodi, je vous appelle Darabi.
Ah, Dodi, mais Dodi, ça fait longtemps.
Oui, ça fait longtemps.
J'espère que vous allez bien.
Oh, ça va, ça va.
D'accord, allez-y maintenant.
Bon, je remercie tous les invités qui sont avec vous. Et je voudrais poser la question à notre invité qui vient du ministère de l'enseignement.
Oui, monsieur Paou.
Bon, il a parlé de l'éducation. Quand vous mentez chez nous, dans notre préfecture de la tribu, rien ne va pas là-bas. On n'a pas de salle de classe. Hein? Il y a une village qu'on appelle Avedan. Il n'y a pas ça de faire. C'est des cases vous pouvez en période que les enfants étudient et dedans. Si la pluie tombe là, les élèves n'arrivent pas à rester en classe. C'est très, très déplorable pour nous. Non, bon.
Mais
on consomme ça de classe là.
Bon. Oui, monsieur Dédi.
C'est seulement le mot de à ta famille.
Oui, monsieur Dédi.
Ça ne va pas dans la tribu. Il n'y a pas l'état de place en bonne du forum là-bas. Donc, je les en prie, il n'a qu'à voir ce côté-là.
D'accord, monsieur Dédi.
Et puis, monsieur Chimina.
Allô, monsieur Dédi.
Son patron là, je veux qu'il nous invite pour apprendre comment on fait la citoyenneté.
D'accord. D'accord. Merci beaucoup, M. Dodi, puisqu'il a dit qu'il allait poser une question, mais finalement, il n'a pas posé de question. Il parlait plutôt alors des salles de classe qui ne sont pas là dans Akebou. Donc, allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, Basile. Comment vous allez?
Ah, c'est bien, les amis.
D'accord. Allez-y.
Non, c'est pour le secteur, non?
Non, mais le DRH, directeur des ressources humaines du ministère des enseignements primaires et secondaires.
Ah, d'accord. Je pense pas que quand je dis que le niveau a considérablement baissé, il est époque en disant que les enfants vont utiliser le téléphone plus que ceux d'avant. Donc, la demande, ça ne tient pas. Est-ce que vous pensez que la demande la tient? Parce que un élève peut arriver au CP2 aujourd'hui, ne peut pas devenir, comme je l'ai dit la fois passée, un grand directeur d'école primaire. Aujourd'hui, il ne peut pas. C'est avant là qu'on quitte ici pour aller enseigner au Gabon, en Côte d'Ivoire, parce que est-ce que aujourd'hui c'est le cas, c'est pas le cas. Tout dit qu'on a ajouté, c'est là-bas seul qui a le niveau de grave, c'est là-bas seul qui a le niveau de grave. C'est là-bas que la grammaire, tout ça, la résolution n'arrive pas à bien décider. Il n'y a plus de niveau en ce temps-là. Ou bien je m'en à son avis. Non, je ne pense pas. Il ne va même pas me contribuer. Le niveau de... Leur après, comment ils disent des enseignants, tout ça là, c'est pas bon. Si ils veulent que les élèves, pas quoi, je ne sais pas, le jour ils vont faire leur entrée des enseignants, la pédagogie que vous nommez, les élèves n'ont pas allé à beaucoup. L'élève ne quitte pas la maison pour aller affronter l'école avec le travail qu'il fait en même temps. C'est quand on va une semaine, presque une semaine, il se mélange avec les enseignants, une partie, tout ça là. Et après, il se met en scène pour pouvoir commencer le travail. On ne peut pas dire que les élèves ne peuvent quitter les parents et puis aller rentrer, commencer par écrire. Non. Tout ça là, ça contribue à tout ce que nous disons aujourd'hui, ça ne vaut absolument rien. D'accord. Parce qu'une phrase pourrait.
Ok, ok, merci beaucoup, Basile, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, votre nom c'est?
C'est Simon Jean-Pierre.
Simon, vous nous appelez d'où?
Oui, je appelle de Lomé.
Oui, quel quartier de Lomé?
Je suis dans Agdogomé.
Ok, allez-y.
Oui. Bien, je vous remercie pour l'émission qui m'a beaucoup intéressé. Puisque je suis enseignant et ça m'a beaucoup pénétré.
D'accord, merci beaucoup.
Ce que j'ai à dire, vous voyez, on ne peut pas faire toujours chaque année les registres. Mais seulement, focalisons-nous sur ce qui mine l'enseignement autour. Pour histoire de portable et tout cela. Un enfant manipule les portables, mais il travaille à l'école. Bon, le portable est sorti, effectivement, c'est que la lecture a été bannie, l'expression orale également bannie, la dictée est bannie. On met tellement J.E. C'est ça, j'ai. Alors que c'est J.A. Poussoff et autre chose. Bien. Je vais vite aller, puisque je ne peux pas prendre les rubriques comme il faut. Et pour la conception, ils ont parlé de la conception des documents. Effectivement, lorsque moi, j'ai toujours dit dans des réunions que lorsque vous concevez un document fait d'expertimènes et vous ramenez ça, les enseignants vont lire, bon, chevronnés là, ils vont lire et puis ils vont voir s'il y a des choses qu'il faut reprendre parce qu'il y a des incorrections dans nos documents, surtout dans les documents d'expression orale. Donc, c'est ça que moi j'ai voulu voir. Et puis, pour les enfants, vous voyez, les enfants sont tellement libres et il n'y a pas de... Vous avez supprimé le bâton, c'est bon. Bon, un enfant qui fait trois semaines, il ne vient pas à l'école. Il n'a pas une punition spéciale. Bon, maintenant, le jour de l'évaluation, il se pointe. On lui dit, il n'a qu'à proposer. Bon, quelle production? Il n'a pas eu quelque chose. Maintenant, il va produire quoi? Et les zones d'accès, c'est comme nous, moi je suis dans Mandouri, et je suis en vacances, c'est seulement à Lomé ici. Donc, il y a des zones là-bas où vraiment, ça ne va pas, quelqu'un connaît des salles de classe, effectivement, mais chez moi, il n'y en a pas. Seulement, il faut un cadre libre pour que l'enseignant soit libre. Pour parfois, il n'y a même pas de logement. J'ai fait une semaine et j'ai fait un an, je dormais en classe. Vous voyez, et comment je peux dormir avec ma famille là-bas? Il faut voir, je suis mal à l'aise. Donc voilà. Je ne vais pas monopoliser tout.
D'accord. Merci beaucoup, Simon Jean-Pierre. Je pense que vous devez vite faire pour rentrer à Mandouri, hein, pour que, du moins, puisque la rentrée, c'est déjà lundi. Merci beaucoup, Simon Jean-Pierre, parce que nous allons recevoir notre dernier auditeur. Al 90-86-35-35-91-36-63-75. Al.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Ça va, c'est M. Morto.
Oui, M. Morto, allez-y.
Vous savez, à votre invité, c'est par rapport à l'utilisation dans les établissements scolaires, là. Cela va s'appliquer dans les autres écoles aussi. Même si on fait des programmes dans notre programme au Togo. Je veux faire un l'école américaine et française, là. Je veux dire qu'ils vont le faire dans cette école-là.
D'accord.
Bon, sur le même sujet, est-ce qu'on va faire autrement cette loi-là? Parce que vous demandez à un enfant d'utiliser le portable pour faire les recherches. Il y a toujours des produits galériques. Ils ont fait autre chose avec le portable. Il n'est pas bon d'interdire carrément le téléphone dans l'établissement scolaire.
D'accord. Merci beaucoup, M. Mahouto. Voilà. M. Paou, nous allons revenir alors au plateau. Et parce que les uns les autres ont posé des questions. Vous avez écouté même d'ailleurs ces questions. Il y a beaucoup qui sont revenus sur la question alors de baisse de niveau, d'autres également, surtout sur la question de la réglementation du téléphone portable dans les établissements scolaires. Alors, on répond rapidement à ces questions.
Merci, merci. Je remercie les auditeurs pour les contributions, surtout les collègues enseignants. Généralement, chaque génération trouve que il est mieux que la génération qui suit. Donc, au-delà de la manipulation, c'est les nouvelles technologies. Aujourd'hui, vous voyez que c'est les jeunes qui sont plus promptes à nous fournir les services informatiques. Donc, ce que nous disons, ce n'est pas seulement la manipulation, c'est la conception. C'est ça qu'on a dit, qu'il ne suffit pas d'aligner les formules pour avoir un bac C ou D. Il faut manipuler. C'est pourquoi nous allons mettre l'accent sur les écoles-projets et les manipulations. C'est fondamental. C'est ce qu'on reproche à notre école. Les gens ont bien réussi, entre vous et moi, les gens ont bien réussi, mais qu'est-ce qu'on a construit? Donnez-moi un seul objet qu'on a fabriqué, on a construit. Même quelquefois, quand il y a des moteurs qui ont des problèmes, c'est ailleurs que les gens vont faire. Donc si c'est pour aligner les diplômes, même scientifiques, et ne pas manipuler, ça ne peut pas nous conduire à nous développer. Donc il faut que nous le sachions, il faut que nous changions, que notre école arrive à développer les sciences. Au bac, cette année, on a eu 33 000 candidats en série D, qui est une série qui n'est pas totalement scientifique. Et pour la C, c'est à peine 2-3% d'élèves. Pour la A, on a eu 48 000. Donc, il faut qu'on change ce paradigme-là. C'est bon. Il faut bien s'exprimer. Parce que d'ailleurs, ceux qui s'expriment bien sont les scientifiques aussi. Ils ne s'expriment pas mal. Donc, ce que nous disons, c'est que nous allons mettre l'accent sur la manipulation scientifique pour que nous soyons de vrais scientifiques. C'est pourquoi, d'ailleurs, lorsqu'on a fait le concours en octobre 2023, on a proclamé le concours pour les 4500 enseignants. On a pris 271 qui font SVT, sciences de la vie et de la terre, qui font sciences physiques et technologie. Nous mettons maintenant la technologie dans l'enseignement au secondaire et qui font maths. Eux, ils ont été à l'école normale et dans nos universités pendant un an. On a mis l'accent sur la manipulation. Et déjà, ces jours-ci, on va les redéployer dans les écoles pour donner vraiment corps à la science. Une science en manipulation, ce n'est de la littérature. Je suis désolé. Maintenant, l'autre aspect, c'est que je trouve que pour le téléphone portable, c'est contradictoire. Certains sont pour, d'autres sont contre.
Voilà.
Et ça ira comme ça. Mais nous disons, on ne peut pas interdire. Parce que nous sommes dans une évolution. Mais l'article 3 a spécifié les conditions. S'il y a une urgence, il y a ceci. Mais c'est pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas agir si nous n'avons pas assez de conseillers principaux d'éducation, les surveillants. C'est pourquoi nous avons mis les surveillants dans tous les établissements. surtout les adolescents qui sont au collège lycée, pour que ces surveillants jouent ce rôle. Le professeur ne peut pas à la fois être en classe et dans la cour voir qui utilise quoi. Ce n'est pas seulement le portable. Il peut même injurier, il peut même avoir des actes pornographiques sans portable. Mais le surveillant, le CPE, le conseil pédagogique principal d'éducation va régler ça.
Tout à fait.
Voilà, avec les parents aussi.
D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous allons clôturer cette émission avec quelques informations culturelles. Et c'est justement par rapport à cette activité qu'organise la commune alors du Golfe 5. Et pour l'occasion, nous recevons M. Assila Kevin. M. Assila, bonjour. J'espère que vous allez bien. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes alors conseiller municipal Golfe 5 et président de commission spécialisée femmes, enfants, animation spéciale et également culturelle. Et vous êtes dans un événement, vous organisez un événement et c'est bien pour la promotion et la valorisation de la culture à Flao. Comment ça va se passer?
Merci. D'abord, je voudrais rappeler que nous sommes à la deuxième édition. Nous organisons cet événement culturel pour la deuxième fois. Et donc, cet événement culturel a pour but la promotion de la culture. Ça a pour but d'inciter les jeunes à s'intéresser à la culture. Parce que aujourd'hui, sur le plateau tout à l'heure, j'ai entendu un intervenant parler de panafricanisme et autres. Mais je suppose que nous ne pouvons pas être panafricanistes si nous ne savons pas d'où nous venons, si nous ne connaissons pas notre culture qui constitue notre identité. Et donc, lors de cette soirée culturelle, nous invitons les chefs quartiers. Nous avons, au niveau de la commune du Golfe 5, 22 quartiers et villages qui la constituent. Donc, nous invitons certains chefs quartiers qui viennent nous faire l'historique de leur quartier, l'origine de leur quartier, comment est-ce que le quartier est né. Pourquoi est-ce que, par exemple, chez vous ici, on dit Hanoukopé, bon, d'autres disent Hanoukopé. Quel est réellement le...
Donc, on parle de Hanoukopé.
Voilà. Donc, quel est réellement le nom du quartier? Et pourquoi est-ce que ce nom-là lui a été attribué? Comment est-ce que le quartier est né? Ensuite, nous invitons un groupe folklorique qui vient nous prester. Nous avons aussi besoin de connaître les danses folkloriques, les danses de nos
ethnies, du terroir.
Du terroir et autres-là. Et ensuite, des artistes qui sont dans la tradition, qui chantent la tradition, qui viennent prester au-delà. Tout cela pour nous amener à connaître notre culture, à nous intéresser à la culture. Voilà un peu comment ça va.
Alors, la rencontre, c'est quand?
C'est demain soir, samedi, à 18h déjà, on commence.
Et c'est où?
À la maison des jeunes de Lomé, 6h à Madaromé.
Alors, oui, au-delà de tout, quelles sont les autres personnalités qui sont invitées? Ou bien c'est entre jeunes et également adultes seulement? Ou bien il y a d'autres personnalités qui sont invitées?
Il y a d'autres personnalités qui sont invitées. Nous avons invité des représentants du ministère de la Culture. Nous avons invité des connaissances d'autres communes pour qu'ils viennent aussi assister. Ça constitue aussi le brassage culturel.
Tout à fait. Ça constitue vraiment le brassage culturel. Et si vous avez un message à donner rapidement pour surtout inviter les uns et les autres à venir assister à cet événement culturel, à cette soirée culturelle, qu'est-ce que vous allez leur dire?
D'abord, je tiens à remercier nos sponsors qui ont cru en nous parce que cette soirée-là, ce n'est pas seulement la mairie qui débourse des fonds parce que c'est un secret de Polichinelle. Nos mairies viennent d'être installées, n'ont pas les moyens. Je remercie donc nos sponsors qui ont cru en nous et qui ont accepté de nous accompagner. Et donc, je tiens juste à inviter les populations à venir assister à cette soirée-là et à découvrir comment est-ce que nos quartiers sont nuls, hein, pourquoi est-ce que on leur attribue tel nom et autre là. Cela va nous amener à savoir comment nous comporter, parce que quand on sait d'où l'on vient, on peut savoir où on va.
Ça, c'est clair. Quand on sait d'où on vient, on peut savoir d'où on va aussi. Merci beaucoup, M. Assila, d'être passé dans cette émission. M. Apaou, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin?
Merci, c'est en trois parties. D'abord, pour rassurer tout le monde, pour ce que j'ai cru entendre, se résout au niveau de la formation initiale continue des enseignants. En fait, si vous avez 10 élèves, ils n'ont pas tous les mêmes problèmes. Donc, il faut que l'enseignant soit en mesure d'identifier le problème. On peut être au CM2 avoir des problèmes de CP2 sur la lecture. On peut être en sixième avoir des problèmes en maths qui relèvent d'une classe inférieure. Donc, c'est à l'enseignant de faire ce qu'on appelle l'éducation personnalisée pour détecter le problème des élèves et résoudre. Ça va se résoudre de cette façon-là. Et deuxième aspect, nous mettrons l'accent sur les sciences. Nous mettons l'accent sur les expériences scientifiques pour que nos enfants soient de... C'est avec ces scientifiques qu'on va construire, qu'on va fabriquer. Et c'est bon, l'idée, il faut maintenant concrétiser l'idée.
C'est
donc, c'est les deux aspects. Et dire que nous avons besoin des parents pour qu'ils nous accompagnent et qu'ils soient rassurés aussi que autour des écoles, dans les écoles, avec les conseils principaux d'éducation, l'autodiscipline et vraiment la réussite scolaire seront au rendez-vous plus que cette année.
D'accord. Merci beaucoup, M. Akpaou, d'être passé alors dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes M. Akpaou Dongoni, directeur des ressources humaines au ministère des enseignements primaires et secondaires. Thierry Afanoukwe, merci d'être passé dans cette émission.
Merci.
D'accord. Firmette Kouagbou, merci d'être passé.
Merci Pascal Oussou, c'est un honneur.
D'accord, justement, et c'est un plaisir, le plaisir est fait. Alors, merci à tous qui nous avez suivis, merci à Thomas et Ted Ateli qui a assuré la mise en onde, la mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Oussou, je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.